Répliques, travaux manuels, avec Arthur Lockman et Joseph Pantus. La vie de l'esprit comporte son lot d'angoisse et de découragement. Mais c'est aussi un délicieux cocon dont les bénéficiaires n'ont généralement pas envie de sortir. Quelques exceptions, cependant, ont fait date. Je pense notamment à Simone Veil, qui a relaté sa vie d'usine dans la condition ouvrière, et plus près de nous, au récit de Robert Linhart, L'Établi. Et voici que paraissent aujourd'hui de nouveaux témoignages du franchissement de la frontière entre l'univers des signes et la production des choses. Joseph Pontus publie À la ligne, feuillet d'usine, et Arthur Lockman, La vie solide, la charpente comme éthique du fer. L'un et l'autre ont décidé, à un moment donné de leur vie, de changer d'orientation et de monde. Ils ont sauté le pas. Ils ont délaissé un temps le stylo ou l'ordinateur pour le travail des mains. Leurs expériences ont été très différentes. Mais avant de venir à l'exploration de ces différences, j'aimerais en savoir plus sur les raisons de leur choix. Il y a 20 ans, vous étiez, comme vous l'écrivez vous-même, sur les bancs de l'élite. Alors pourquoi l'usine, Joseph Pontus ?
Effectivement, il y a 20 ans... Je faisais une prépa littéraire, et les choix de vie font qu'on est amené à prendre des décisions, parfois. Et il y a 5 ans, j'ai tout quitté par amour, pour me marier en Bretagne. J'étais alors travailleur social. Et à 40 ans, c'est pas facile de retrouver du boulot. J'avais même pas le droit au chômage, parce que j'étais contractuel de la fonction publique. Donc mon épouse m'a aidé un temps. Et donc il a fallu tout naturellement que j'aille dans le secteur qui embauche le plus en Bretagne, à savoir les usines d'agroalimentaire, en tant qu'intérimaire. Donc c'était pas un choix au départ, c'était vraiment une basse nécessité vitale et économique. Je suis pas rentré à l'usine pour écrire. Et j'ai découvert un monde que je soupçonnais pas. Et il m'a fallu très très vite écrire pour me décharger de cette violence physique, mentale, et essayer de sublimer ce réel par la littérature.
Mais quand vous faisiez une prépa littéraire, Joseph Pontus, c'est que vous destiniez éventuellement une carrière dans l'enseignement, ou c'est simplement par amour de la culture, sans savoir très bien où cela allait vous mener?
Je savais pas quoi faire de ma vie à l'époque, et j'ai toujours aimé lire et écrire. C'est le seul truc où j'étais à peu près doué, quoi.
Mais donc, vous avez été amené à travailler en usine, dans l'agroalimentaire, puisque l'amour vous avait conduit à Lorient, avec votre épouse. Mais donc, c'est un choix différent, si j'ai bien compris, de celui de Robert Linhart, qui, au lendemain de 68, il était normalien, veut quitter sa position privilégiée dans la division du travail, pour participer à la production, et aussi très directement à la lutte des classes. Et il y a eu beaucoup d'établis, d'ailleurs, dans cette période récente de notre histoire. C'est pas tout à fait ou pas du tout votre trajectoire?
Pas du tout. Le bouquin de Linhart est magnifique.
José Pontus, oui.
Le bouquin de Linhart est magnifique. Il dit très justement, j'y vais pour m'établir, mais au bout de ma journée de 8 heures avec mes deux chevaux, j'ai absolument pas envie de préparer la révolution parce que je suis juste crevé, quoi. Ça, il le raconte très très bien. Mais c'est que oui, là... Pour À la ligne, on parle vraiment d'un déclassement. C'est-à-dire que moi, si j'ai pas de travail et si j'ai pas de mission d'intérim, je me retrouve sans le sou. Linhart et les établis, ils savent que si jamais leur mission s'arrête, ils peuvent retrouver leur poste de maître de conf à la fac, etc. Moi, c'est vraiment une nécessité vitale et un boulot alimentaire. Et j'ai pas de possibilité de secours à part l'usine.
D'accord. Donc, Arthur Lockman, vous aussi, vous avez quitté cette position privilégiée dans la vision du travail, puisque vous êtes devenu un temps charpentier. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette orientation de votre existence, Arthur Lockman ?
Dans mon cas, il s'agissait davantage d'un choix par dépit, dans le sens où j'avais été étudiant en classe préparatoire, puis à l'université en philosophie, et j'étais progressivement gagné d'une certaine lassitude de la philosophie, et j'ai voulu voir autre chose que la seule chose que j'avais connue, à savoir les bancs de l'école et de l'université. Et j'ai donc formé ce projet d'apprendre un métier manuel qui me semblait être une bonne manière de voyager à travers le monde. Et effectivement, j'ai pu partir assez rapidement après avoir obtenu mon CAP, travailler en Allemagne, en Italie.
Mais c'est difficile d'obtenir son CAP de charpentier, non ? Ça prend du temps.
Alors effectivement, c'était un choix par dépit, mais je reste par lassitude de la philosophie. Mais j'en restais pour autant philosophe de formation, c'est-à-dire éduqué ou nourri au mythe de la caverne et au bâton rompu de Descartes. Toute philosophie dans lesquelles les sens sont sinon corrupteurs, à tout le moins trompeurs. Et donc apprendre à se servir de ses mains, c'était d'abord apprendre à faire confiance à ses mains, alors que tout l'enseignement de philosophie, en tout cas en terminale et puis en classe préparatoire, consiste à redresser les sensations par la raison. Donc il m'en a coûté d'apprendre à me servir de mes mains, ce n'est pas facile, tout autant que cette expérience a été extrêmement bénéfique, comme une sorte de reconnexion ou de prise de contact avec une autre source, une autre forme de pensée et une autre source de vérité.
Alors, vous parlez d'une expérience bénéfique qui a duré combien de temps, Arthur Lockman ?
Alors la formation elle-même a duré un an, et puis j'ai ensuite pratiqué la charpente pendant une dizaine d'années. D'abord à temps plein, et puis ensuite de loin en loin, pour combler des trous d'activité dans une autre activité que je menais en parallèle, qui était celle de la traduction.
Mais vous n'êtes plus charpentier maintenant ?
Je ne suis plus.
En même temps, c'était bénéfique, mais c'était aussi une parenthèse dans votre vie.
C'était davantage qu'une parenthèse, un cycle.
Un cycle, d'accord.
Une forme de rencontre avec une partie de moi-même que j'ignorais et qui m'a complété.
Vous décrivez, Arthur Lockman, une expérience bénéfique, et nous verrons plus précisément de quoi elle est faite. Joseph Pontus, vous parlez plutôt d'une expérience pénible, douloureuse, par certains côtés effrayante, d'abord dans une poissonnerie, ou ensuite, et c'est encore plus terrible, à l'abattoir, où vous nettoyez les déchets. J'en lirai quelques extraits. Mais vous dites, Arthur Lockman, que la philosophie ne traite pas toujours de cela. Non, il y a des philosophes qui se sont intéressés à ces phénomènes, et justement qui, par-delà la division classique travail manuel, travail intellectuel, mettent l'accent sur, à l'intérieur du travail dit manuel, une différence essentielle, et je pense à Hannah Arendt, entre le labeur et le faire œuvre, l'animal laborance et l'homo faber. Et il me semble que vous êtes, Lockman, un homo faber, et vous avez été, vous, Joseph Pontus, contraint de devenir un animal laborance parce que l'activité à laquelle vous vous êtes voué, elle entrait dans le cycle production-consommation, donc il s'agissait de pourvoir aux nécessités de la vie, et là, je cite Jacques Tamignot commentant magnifiquement Hannah Arendt, à la différence du labeur qui ne laisse derrière lui aucun produit durable, dans la mesure où il participe au cycle vital, l'activité qui consiste à faire œuvre produit, par-delà le cercle de l'éternel retour du même, une stable région de choses durables. Alors que le labeur s'inscrit dans le cycle de la nature, l'activité d'œuvrer interrompt, viole, subjugue, détruit les processus naturels, en arrachant à la nature des matériaux qui lui permettent de façonner des choses qui n'ont pas d'équivalent naturel, elle établit un environnement artificiel qui protège les humains de la nature, leur assure un séjour durable entre vie et mort, etc., etc. Donc, la charpente, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est un habitat pour l'homme. Vous, c'est le poisson ou la viande, et c'est un éternel retour. C'est-à-dire que vous n'avez même pas la consolation de produire quelque chose de durable et a fortiori de permanent, Joseph Pontus.
En même temps, c'est là où se rejoignent le livre d'Arthur et le mien, en ce sens où il dit que ça a été une expérience qui nous a façonné. C'est Spinoza dans la troisième partie de l'éthique, dans la définition des affects, qui dit que la joie est le passage d'une perfection moins grande à une perfection plus grande. En ce sens, ça a été une expérience, l'expérience ouvrière, particulièrement éprouvante, dans le sens de l'épreuve, dans tous les sens du terme. Mais moi, je me suis découvert un corps que je ne connaissais pas, des mains que je ne connaissais pas, comme le dit justement Arthur. Et je me suis aussi découvert une endurance mentale que je ne connaissais pas. Il a fallu que j'aille puiser très très loin au fond de mes réserves pour pouvoir avoir la force d'y retourner tous les matins, dans ce lieu complètement hallucinant. J'ai tenu grâce à mes collègues, auxquels je rends hommage dans le livre. C'est aussi un des parallèles avec la vie solide, c'est que ce sont des travaux manuels qui sont foncièrement individuels, mais en même temps foncièrement collectifs. On n'est rien sans le collègue d'à côté. Pour se figurer le travail sur une ligne de production, c'est exactement comme la scène des temps modernes avec Charlot quand il resserre ses boulons. Et s'il va pas assez vite, le travail du collègue derrière, il en pâtit. Et donc, il faut être à sa place. Moi, j'ai été à ma place d'ouvrier, et j'ai pu tenir grâce à mes collègues, mais effectivement aussi grâce à la philosophie, grâce à la littérature et grâce à la poésie.
Oui, mais d'un autre côté, ce travail en lui-même n'avait rien de positif. Et peut-être était-ce aussi à cause de ce que vous étiez amené à produire. Produire pour consommer, se retrouver dans le cycle consommation-production, c'est très différent justement d'un métier comme celui de la charpente où on bâtit quelque chose. Là, vous aviez effectivement la présence des collègues qui a joué un très grand rôle, mais vous ne pouviez pas trouver d'épanouissement dans le travail lui-même auquel vous collaboriez,
sauf Pontus. Sauf quand j'arrivais à piquer 2-3 langoustes ou des bouts de viande. Mais non, c'est un travail qui est complètement insensé. À la différence de la charpente, le travail de l'agroalimentaire, c'est de la déconstruction.
Exactement.
La charpente, on part de rien et on arrive à quelque chose. L'agroalimentaire, l'abattoir, le paradigme absolu, c'est qu'on arrive avec une vache et au final, on a un steak. Donc le rapport aux choses est complètement différent. Et on est quand même, il faut le dire, dans l'industrie de la mort. Avec tout ce que ça signifie. Au niveau symbolique, au niveau odeur, au niveau pénibilité, et au niveau des représentations que soi-même on se fait, en disant que je suis partie prenante de cette industrie de la mort.
Mais d'ailleurs, je voudrais lire un tout petit extrait de votre livre, José Spontus, à la ligne. Donc vous avez été d'abord dans une poissonnerie, ensuite dans un abattoir. L'abattoir, vous travailler aux déchets, donc vous n'êtes pas à l'abattage, mais voilà un extrait du livre. Autant de cuves que de déchets, des morceaux que je ne parviens pas à identifier, les mâchoires, les cornes, les pieds avant, les pieds arrière, parfois des oreilles douces et poilues, avec encore l'anneau d'identification de l'animal, d'autres parties du corps dégoulinantes, que je préfère ne pas savoir, mais qui sont du ruminant, sans doute les différentes panses et les mamelles. Et sur les mamelles, vous dites quelque chose de terrible. Et les mamelles bordel, sortent de tout petits ballons de rugby, gonflés, encore tièdes du corps de l'animal juste tué. Parfois, elles éclatent quand elles tombent par terre, un liquide blanchâtre en sort, ça pue la mer, la mort, la peur de la bête abattue, c'est encore tiède. La merde, je la nettoie aussi dans un atelier dédié. J'imagine qu'au-dessus, c'est ce qu'on appelle le piège. Là où les bêtes sont conduites et attendent juste avant d'y passer. Elles ont peur et elles sentent la mort qui approche. Elles chient. C'est normal, je nettoie, c'est mon taf. Le taf que j'écoutais avec horreur à la pause la semaine dernière. Donc, oui, en effet, c'est pas la construction, c'est la déconstruction. Et l'animal n'est pas présent. Mais vous ressentez à travers ce que vous faites ce qu'a été le calvaire de cet animal.
Oui,
Joseph Pontus.
Oui, mais il faut pas trop le ressentir parce que si on le ressent trop, on trouve pas la force d'y retourner le lendemain. Faut le mettre à distance. Vous parliez d'Arendt tout à l'heure. C'est le fait de se dire que je ne suis qu'un petit maillon de la chaîne dans la banalisation du mal et de l'horreur. On peut pas se dire je participe du processus d'extermination des bêtes. Sinon, on devient complètement fou.
Alors, vous, Arthur Lochmann,
vous évoquiez la différence entre établie par Anna Arendt entre Homo laborans et Homo faber. J'ai découvert à l'occasion de la rédaction de ce livre un texte formidable de Richard Sennett qui s'inscrit dans la lignée pragmatiste qui s'intitule « Ce que c'est la main » et qui essaie de dépasser ce clivage ou cette dichotomie entre l'homo laborans, entre le labeur et le faire œuvre, en montrant que dans tout geste, dans le faire, il y a aussi une pensée et une pensée qui se codifie sous une forme d'éthique. Et donc dans cette lignée, j'ai tâché dans mon livre de montrer en quoi la culture artisanale constitue une éthique du faire, c'est-à-dire qu'il y a de la pensée dans la routine, il y a de la pensée dans le rapport à la matière. Certes, ce n'est pas une pensée conceptuelle articulée en notions abstraites, comme la pensée philosophique, mais c'est aussi une forme de pensée tout aussi valable et qui forme dans la pratique quotidienne une éthique. Et en ce sens, il n'y a pas d'un côté le labeur sans pensée et sans morale, et de l'autre le faber, le faire œuvre, avec une éthique et une morale et un rapport aux politiques. Non. Il y a dans l'éthique du faire, dans la pratique artisanale, une pratique qui a une dimension de citoyenneté et qui forme du commun.
Oui, mais vous dites une éthique du faire, on est donc du côté de la fabrication, on est du côté de l'homo faber, et Hannah Arendt ne dirait jamais que il n'y a pas d'éthique pour l'animal laborans, mais c'est un travail qui est voué à une certaine absurdité. Et vous n'aviez jamais, vous, dans la charpente, le sentiment de cette absurdité. Parce que ce n'était pas, selon les termes de Joseph Pontus, de la déconstruction, ce n'est pas non plus l'éternel retour du cycle vital, c'était la construction, c'est-à-dire vous participiez à l'édification du monde. Et donc de ce point de vue-là, on peut dire que vos deux livres prouvent, d'une certaine manière, à travers le récit de vos expériences, attestent de la validité de cette opposition, ou en tout cas de cette distinction à l'intérieur du travail manuel entre ce qui relève de l'animal laborans et ce qui relève de l'homo faber.
Mais la distinction, elle se dépasse aussi sur le plan de la formation d'un collectif, l'aspect politique, la dimension politique du travail manuel, du travail confronté à la matière. Et c'est une chose qui est particulièrement importante à mettre en avant, que la culture artisanale et la culture matérielle en général, la culture populaire, a une dimension politique très forte, que reprennent aujourd'hui ceux qui s'appellent les makers et que reprennent aussi les développeurs informatiques.
Les développeurs informatiques ?
Les développeurs informatiques se revendiquent d'une éthique artisanale dans le sens où ils considèrent, comme la culture artisanale, que le meilleur produit, le meilleur résultat pour la collectivité sera obtenu par la collaboration du plus grand nombre. Donc ils mettent en commun leurs travaux, leurs lignes de code, afin que chacun ou toutes les personnes qui le désirent puissent participer à l'élaboration de ce produit collectif. Dans oui. ce sens, l'éthique artisanale, c'est une mise en commun. De la même manière que la transmission dans la culture artisanale, qui est la transmission ou l'accumulation de l'ensemble des expériences produites au fil du temps par les générations du corps de métier, de la même manière que donc dans la charpente et dans la culture artisanale, il y a une forme de travail collectif, d'effort collectif pour l'obtention du meilleur résultat. De la même manière aujourd'hui, avec une communauté formée d'une autre manière, c'est-à-dire par l'interconnexion mondiale, il y a une mise en commun de cette production, de ce faire.
Alors d'ailleurs, cette mise en commun, je voudrais citer un passage de votre livre, Arthur Hochman, qui est très émouvant. Les compagnons, parce que c'était des compagnons, les charpentiers, seuls ou à plusieurs, voyageaient de ville en ville pour travailler et apprendre à travailler. En voyage, ils partageaient leur vivre, ce qui leur a donné leur nom, compain, le pain commun. C'est l'ancêtre de notre actuel copain. Un ancêtre bien oublié aujourd'hui, vous en rappelez le souvenir, mais je suis étonné parce que votre livre s'intitule « La vie solide ». Or, les ordinateurs nous font vivre dans le virtuel. C'est pas des choses, c'est des programmes. Et les programmes, ce sont des non-choses. Il me semble que vous êtes allé, à un moment donné, des non-choses vers les choses. Ce n'est pas tout... Il y a quelque chose là de concret, de matériel. Et une matérialité oubliée quand on parle, par exemple, de Start-up Nation, Donc peut-être y a-t-il de la collaboration dans l'informatique, mais le choix de la charpente, c'est une manière de quand même de ne pas céder à la tentation de vivre uniquement dans un univers d'écran.
Je ferai une distinction, entre les rapports de travail de la Startup Nation et la question de la matérialité du code informatique qui, pour qui s'y est frotté, révèle une certaine résistance propre à celle de la matière. Enfin, tout informaticien sait qu'il a affaire lui aussi à une matière, certes virtuelle, mais qui n'en est pas moins réelle et qui constitue la plus grande partie de notre réel d'aujourd'hui. Mais vous avez raison, le titre « La vie solide » a une forme d'ambiguïté ou de paradoxe, puisque c'est à la fois une référence à la vie liquide de Zygmunt Bauman, qui décrit la liquéfaction, la fragmentation de nos vies contemporaines, moins due à la Startup Nation ou à la transformation ou à la virtualisation de notre réel, que à l'accélération des technologies et des modes de vie sociaux. Mais en même temps, j'ai pu accéder à cette vie solide, c'est-à-dire cette vie ancrée dans une forme de matérialité, uniquement parce que la vie s'est liquéfiée et qu'il m'a été possible à 30 ans, ou plutôt à 23 ans, d'aller faire un CAP de charpente, ce qui n'était pas possible à l'époque où la vie était réellement solide et où les trajectoires transfuges étaient bien moins possibles.
Vous avez bénéficié
de la liquéfaction. Voilà.
Oui. Alors, Joseph Pontus, vous décrivez une usine agroalimentaire, ultramoderne si on peut dire, et j'ai pensé en vous lisant un texte de Peggy, L'Argent, où il dit que il a eu un pied dans l'ancien monde et puis il a vu ce qu'était la modernité et il dit « Le croira-t-on, nous avons été nourris dans un peuple gay. De mon temps, tout le monde chantait, excepté moi, quand j'étais déjà indigne d'être de ce temps-là. Dans la plupart des corps de métier, on chantait, aujourd'hui on renarcle. » Et j'étais très frappé par ce texte parce que vous aussi, vous dites que là où vous avez travaillé, on chantait beaucoup. Et les jours où on ne pouvait pas chanter, c'était les jours particulièrement atroces. Mais le chant, la chanson est très présente, Joseph Pontus.
Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai toujours jamais fait de séparation entre culture populaire et culture savante. Pour moi, toute forme de culture est une culture. Et je ne considère pas du tout que la chanson soit un art mineur. Et effectivement, il y a la chanson, c'est des choses qui aident à passer le temps, à essayer de faire en sorte que le temps passe plus vite. Ce qui est complètement différent, parce que quand on travaille à la chaîne pendant 8 heures, il faut faire en sorte que le temps passe plus vite. Cette liberté intérieure, elle ne peut s'acquérir qu'avec l'efficacité du geste. C'est-à-dire que quand le geste n'est pas efficace, on réfléchit constamment à la manière dont on va améliorer son geste. Donc c'est une complète prison intérieure. Mais une fois qu'on a réussi à ce que le geste soit efficace, là, on peut libérer de la pensée. On peut libérer de la pensée et on peut chanter, penser à des poésies. Enfin, moi, en l'occurrence. Mais, ouais, il y a des jours où c'est tellement speed qu'il n'y a même pas le temps de chanter, comme le raconte une ouvrière un jour à la pause.
Mais vous dites, à l'usine, on chante, putain qu'on chante, on fredonne dans sa tête, on hurle à toute tête, couvert par le bruit des machines. On sifflote le même air en tétant pendant 2 heures. On a dans le crâne la même chanson débile entendue à la radio le matin. C'est le plus beau passe-temps qui soit et ça aide à tenir le coup. Quand je ne sais que chanter, j'en reviens aux fondamentaux, l'international, le temps des cerises, la semaine sanglante et traîner.
Ouais.
Traîner, toujours traîner et encore le grand Charles, sans qui nous serions tous des comptables, comme disait Brel. Trainet qui met de la joie dans ce putain d'abattoir, qui me fait sourire à mon épouse quand j'ai ta main dans ma main, et puis la folle complainte reste quand même la plus belle chanson de tous les temps, où Ménilmontant, l'âme des poètes, etc. C'est donc, il y a dans ce livre, étonnamment, un hommage auquel je ne m'attendais pas, parce que moi j'ai connu dans ma jeunesse ce qu'on appelait la chanson rive gauche, c'est-à-dire beaucoup Léo Ferré, que j'allais voir à Bobino, avec son pianiste aveugle, Paul Castagnier, Jacques Brel, évidemment, Brassens, avant ça, mais Trenet ne faisait absolument pas partie de mon univers. Et pour vous, il a énormément compté, Joseph Pontus.
Ah oui, j'adore Ferré, évidemment, mais ce qu'il y a, c'est que si je me chante avec le temps, dans ma tête, à l'usine, je me flingue, quoi.
Oui, ça, on peut pas chanter avec le temps, non. On peut chanter à l'usine les poèmes d'Aragon, chantés par Léo Ferré.
Ouais,
ainsi que les hommes vivent.
Ouais, c'est ça. Alors, je chante pour passer le temps, voilà. Et même de n'y comprendre rien, pour passer le temps, je chante. Ouais, celle-là, je l'ai beaucoup chantée. Mais il faut effectivement se mettre dans une dynamique plutôt positive, parce que si on rajoute du noir déjà dans le noir dans lequel nous sommes, ça va devenir un petit peu compliqué au niveau de l'endurance mentale dont je parlais tout à l'heure. Et pour ça, Trenet, même s'il est par moments mélancolique ou un petit peu triste, il apporte une joie qui est incommensurable.
Et oui, mais il y a de la joie. Oui,
oui, il y a de la joie, même toute J'ai ta main dans ma main, c'est une chanson qui est exceptionnelle.
Oui. Et vous chantez juste?
Ah, je chante très faux. Je chante très très faux, mais ça m'empêche pas de chanter.
Ah oui, moi je chante tellement faux que je n'ose jamais chanter. Et quand les autres chantent, je reste comme Peggy, obstinément silencieux et tristement silencieux, parce que c'est agréable. Des gens qui tout d'un coup décident de chanter ensemble, et à la fois j'en suis heureux et je me sens un peu exclu. Vous passez sur le fait que vous chantez faux et vous chantez à tue-tête.
Ah oui, mais sans problème. De toute façon, comme vous le lisiez, il y a un tel bruit de machine que personne n'entend rien. Donc,
ah oui. Et le bruit des machines ne vous décourage pas de chanter?
Ah non, pas du tout. C'est une manière de lutter contre ce bruit.
Ah oui.
C'est aussi une manière de se réapproprier une forme de parole et une forme de langage au-delà du bruit machinal.
Alors, pour ce qui vous concerne, Arthur Lockman, donc la charpente, vous travaillez le bois. Et vous parlez, à un moment donné, me semble-t-il, de respect. De respect de la matière. Et ça m'a beaucoup frappé, parce que là encore, ça m'a évoqué Peggy, qui, dans un texte peu connu, deuxième élégie 30, oppose la matière ancienne, comme toujours, et la matière moderne. Et la matière ancienne, eh bien, c'était la pierre ou le bois. Et il dit, un geste maladroit sur cette matière ne se rattrape jamais. Dans le commerce de l'homme et du bois, de l'homme et de la pierre, une injure ne s'oublie éternellement pas, rien ne s'efface. Dans l'opération de l'ancienne matière, tout compte et tout compte pour toujours, tout est inexpiable, tout est impayable, tout est indéfaisable, donc tout est éternel. L'homme, donc, on peut dire qu'il est tenu au respect, le travail relève d'une sorte de politesse. Il oppose à cela le fer, qu'on sait traiter par grande masse, amené à l'état liquide, et là ça crée une matière ductile, malléable, souple, docile, interchangeable, allante et venante, dont on peut faire tout ce qu'on veut. Et effectivement, vous avez un commerce avec le bois pour la charpente.
Je parle de respect, je parle aussi d'une forme d'animisme spontané, oui, des, voilà, charpentiers dans leur rapport avec le bois. Une des premières remarques dont on écope sur les chantiers, quand on se promène sans regarder où on met les pieds, c'est on ne marche pas sur le bois. On ne marche pas sur le bois pour ne pas y laisser la trace de ses semelles. Et par une forme, oui, de respect née de cet animisme spontané, de cette déférence envers le travail de la nature qui a permis, au fil de plusieurs décennies, de donner lieu à ce bois dont on sait qu'on ne récupérera pas si on se trompe en sciant au mauvais endroit.
Mais alors c'est intéressant parce que là ça me rappelle un autre auteur. Et là vous voyez, c'est un auteur qui bascule pas dans l'idéalisme et qui n'a aucun mépris pour le travail manuel. C'est Heidegger. Donc qu'appelle-t-on penser, justement? Parce qu'il ne parle pas de la charpente, il parle de la menuiserie. Et le menuisier, c'est la petite cognée, et la charpente, c'est la grande cognée, c'est ça.
Il parle aussi de la tonnellerie, puisque son père était tonnelier.
Oui,
mais... Il reconnaissait la forme du bois, et savait utiliser les formes naturelles du bois pour produire les meilleurs tonneaux, les meilleurs douelles.
Il dit, un apprenti menuisier s'efforce, quand il est un vrai menuisier, de s'accorder avant tout aux diverses façons du bois, aux formes y dormant, au bois lui-même tel qu'il pénètre la demeure des hommes et dans la plénitude cachée de son être s'y dresse. Et il ajoute ceci un peu plus loin. Penser est peut-être simplement du même ordre que travailler à un coffre. Il ne fait pas la hiérarchie traditionnelle. Mais vous reconnaissez le travail de la charpente dans la description que fait Heidegger du travail du bois ?
Je vais d'abord répondre sur la menuiserie, parce qu'il y a un autre exemple assez formidable du travail avec le bois, et pas seulement sur le bois. C'est l'opération qui consiste à réaliser des panneaux de menuiserie, donc des panneaux de portes, de meubles notamment, qui ont cette caractéristique d'être symétriques par rapport à leur centre. Eh bien, cette opération, elle consiste à recouper dans l'épaisseur une planche de bois. Et en recoupant dans l'épaisseur et en ouvrant cette planche en deux comme un livre autour de sa tranche, on fait apparaître les veines du bois qui étaient cachées à l'intérieur, qui se dérobaient à l'œil. Et ce qui est absolument magnifique et qui est comme une forme d'entrée de la culture dans la nature par cette opération de délignage, ça s'appelle, c'est que les veines du bois sont symétriques par rapport à leur tranche. Tout d'un coup, ce réseau naturel et chaotique produit par la formation du bois devient symétrique par rapport à sa tranche et entre ainsi dans la signification, dans la culture. Mais pour prendre un exemple tiré de la charpente, une des raisons pour lesquelles les poutres qui servaient à la charpente de Notre-Dame ont pu tenir si longtemps, c'est que à cette époque, on ne sciait pas le bois pour obtenir des poutres, on les écarissait à la hache, c'est-à-dire qu'on respectait la forme naturelle du bois, ce qui permettait une plus grande longévité du bois qui pouvait évoluer dans le temps et se déformer naturellement. Et c'est donc cette façon d'épouser les contours naturels du bois pour lui permettre la plus grande longévité qui était caractéristique de ces poutres de la charpente de Notre-Dame.
Donc on retrouve ce thème du respect et une espèce de collaboration avec la matière elle-même.
Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas un rapport à l'autorité de la matière, c'est un rapport d'écoute de ses résistances, d'écoute de ses formes naturelles, une forme de bienveillance qui est en fait la même que celle qu'on peut avoir dans les métiers du soin, les métiers, les professions d'infirmière par exemple, ou dans l'éducation. Il faut se mettre à l'écoute de la matière que l'on fait évoluer.
J'évoque Peggy. Pendant des siècles, toute cette entière humanité a été contrainte de travailler une matière, non seulement qui résistait, toutes les matières résistent, au moins un peu, même les modernes, si peu que ce soit, c'est leur fonction même, mais une matière qui n'admettait pas, qui ne recevait pas, qu'on lui fît la blague et qu'on n'y alla pas doucement, une matière sérieuse, et dans ces temps-là, des humanités sérieuses respectaient. Des humanités sérieuses ne faisaient pas de blagues et y allaient doucement. Elles y allaient sérieusement. En ce temps-ci, aujourd'hui, une humanité moderne est libre. Alors là, je vous interroge tous les deux, après tout, à partir de votre expérience ou de votre sensibilité, comment vous avez vécu l'incendie de Notre-Dame ? Est-ce que ça a représenté quelque chose de très fort pour vous, Joseph Pontus ?
Moi, je suis né à Reims, où j'ai vécu pendant 20 ans. Je crois savoir qu'il y a eu un petit bombardement en 14.
Eh oui.
Qui a mis un petit peu à mal la toiture de Notre-Dame de Reims.
Qui a détruit Notre-Dame de Reims.
J'ai vécu quelques années en Lorraine. Je suis allé plusieurs fois à Lunéville, où le château a aussi quand même bien cramé. Et j'ai eu la chance d'être invité en rencontre à La Rochelle et à Rennes. Donc l'hôtel de ville de La Rochelle, il a quand même aussi bien pris cher, comme le Parlement de Bretagne. À chaque fois, ça a été reconstruit. Les hommes se sont inscrits dans le temps long du bâti. Donc, si je peux me permettre juste une petite blague pour dédramatiser la situation. C'est le New York Herald Tribune qui titrait en 1914 « Les Allemands ont bombardé la cathédrale de Reims. Quand on connaît la laideur des monuments berlinois, on sait bien que toutes représailles seront impossibles. » Voilà, il faut dédramatiser un petit peu.
Vous pensez qu'on a trop dramatisé ? Que la réaction française était peut-être d'une émotivité excessive par rapport à l'événement, ou est-ce que vous l'avez vécu aussi, comme d'autres, comme une atteinte à votre propre substance ?
Moi, j'aurais été beaucoup plus ému si ça avait été la cathédrale de Reims qui avait recramé une deuxième fois, mais c'est ma culture champenoise qui fait ça.
Ah oui, d'accord, mais...
Le reste, non, je pense qu'il faut faire confiance au temps et aux hommes, tout simplement.
Et vous, comment avez-vous réagi, Arthur Lockman ?
le sentiment qui m'a saisi le soir de l'incendie était celui d'un surgissement du temps. Enfin, cette cathédrale qui est là depuis 850 ans et qui porte par l'ensemble de ses rénovations successives une sorte de témoignage de la stratification des époques au cœur de la cité, pouvait sembler éternel. Et son incendie nous rappelle que le temps s'écoule et que parfois il surgit sous la forme d'un incendie ou de tout autre incident. C'était d'abord comme une sorte de rappel à l'écoulement du temps. Ensuite, du point de vue du charpentier, c'est aussi la perte d'un travail formidable de plusieurs décennies. Sont partis en fumée des charpentes ou des morceaux, des pièces de bois de plusieurs époques, certaines du XIIIe siècle, d'autres du XIXe et d'autres encore du XVe siècle. Et avec ces pièces de charpente, un certain nombre de sculptures, des sculptures qui ornaient la toiture, taillées en bois et recouvertes de plomb, et qui étaient l'expression de ce que les ouvriers sont aussi amenés à une part de travail créatif dans une cathédrale. Une cathédrale, c'est non seulement un architecte, ce grand nom, mais aussi le maître charpentier qui a conçu la charpente capable de supporter l'édifice conçu, en l'occurrence par Viollet-le-Duc. Et donc, le maître charpentier a porté son nom sur l'édifice. Et puis, c'est aussi et surtout l'ensemble du travail, les millions d'heures de travail accumulées à la fois au fil des générations et puis par l'ensemble de la communauté ouvrière qui a travaillé sur la cathédrale. C'est tout ça qui est parti en fumée, le merveilleux escalier en colimaçon qui permettait à l'intérieur de la flèche de monter jusqu'à son sommet. Une infinité de petits détails qui, outre la splendeur d'ensemble de l'ouvrage, forment toute la signification, toute la richesse de la cathédrale. Ce n'est pas seulement le geste de Viollet-le-Duc. Et puis, dans l'après, ce qui me frappait, c'est que certaines voix se plaignaient de ce qu'on se revendiquait bâtisseur avant de se reconnaître héritier. Le mot héritage est assez troublant, et on le voit particulièrement bien dans ce cas-là, puisqu'il masque le fait que ce qui nous arrive en héritage a lui-même fait l'objet d'une transmission, et toute transmission est interprétation. Et en l'occurrence, Viollet-le-Duc s'était permis une sévère interprétation de la cathédrale et avait, en 1850, donc, non pas rétabli une flèche préexistante, mais réinventé ou placé un geste formidablement audacieux.
Ça m'intéresse ce que vous dites, parce que effectivement, nous nous sommes rendus compte, avec cet incendie accidentel, que ce qui est durable est aussi vulnérable. C'est une prise de conscience stupéfaite et désolée. Et deuxième prise de conscience, les vieux métiers ne sont pas morts. C'est-à-dire, je parlais de Startup Nation tout à l'heure, il n'y a pas que des graphistes. Il y a des charpentiers, des couvreurs, des tailleurs de pierre. Mais troisième constatation, la modernité parle avec une certaine arrogance, c'est-à-dire... On vous dit, Notre-Dame, on va la reconstruire plus belle qu'avant, et on parle de gestes contemporains. Alors certes, il y a toutes sortes de réinterprétations, etc., mais un geste contemporain, c'est aussi le choix éventuel d'un matériau contemporain, et l'architecture adore le verre. Est-ce qu'on a envie d'avoir du verre au sommet de Notre-Dame ? Est-ce que, justement, il y a la charpente en bois qui a volé, qui a disparu, et ce bois millénaire, il est mort. Mais le contemporain peut faire un peu peur à cause
là,
de son mépris.
Vous avez enchaîné un certain nombre d'hypothèses dont elles ne sont pas toutes avérées. On ne sait pas si ce sera du verre ou un autre matériau. On peut très bien aussi...
Mais c'est une possibilité.
...concevoir un geste architectural contemporain réalisé avec du bois ou avec du métal. Ce qui est très frappant, c'est de dire il faut reconnaître que nous sommes héritiers, alors que ce dont nous sommes héritiers, c'est précisément un geste formidablement audacieux de l'époque. Et se reconnaître héritier et en concevoir de l'humilité, ce serait précisément démériter de cet héritage de Viollet-le-Duc.
Donc vous avez confiance dans le contemporain, hein ?
Il me semble que c'est précisément avec cet incendie que nous est donnée, offerte l'occasion d'apporter à nous, notre génération, notre part de beauté à cet édifice qui se caractérise précisément par le fait que toutes les générations y ont apporté leur part de beauté, leur part de travail.
Joseph Pontu, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, pour faire un retour à Reims, qui me permet de saluer Ribon d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter les combles et la toiture de la cathédrale de Reims, qui a été refaite en béton armé. Et c'est absolument prodigieux. Je crois que c'est Henri Deneux qui est un des maîtres d'œuvre de cette, je ne sais pas si on peut dire charpente, peut-être que Arthur va me dire que ça ne se dit pas pour du béton armé, mais ça se fait assez rapidement, à partir de 1920, et c'est aussi très contemporain et absolument passionnant de voir comment, sur tout ce qui est travail sur les ogives, les poids, les contrepoids, on en arrive à rebâtir assez rapidement. Donc moi, je serais assez confiance à qui que ce soit pour reconstruire de quelque manière que ce soit.
Ouais, vous avez confiance dans le contemporain, moi un peu moins, parce que je vois la grande rupture de l'art contemporain avec l'art moderne, et donc ce mot contemporain me fait peut-être un peu peur. Mais peu importe, j'en reviens à votre livre, Joseph Pontus. Il est écrit dans une prose très directe, très dure, et en même temps, en vers libre. À la ligne, c'est vrai, vous allez à la ligne, pas quand la ligne se termine. Alors d'où vient ce choix d'écriture, Joseph Pontus?
Il vient très très rapidement. J'écris tous les soirs en rentrant de l'usine pour, comme je le disais tout à l'heure, consigner, sublimer mes journées. Et une des premières choses qui me choque en arrivant à l'usine, alors que c'est vraiment du travail à la chaîne pur et dur, c'est qu'on dit plus une chaîne de production, on dit une ligne de production. Qu'il n'y a plus de contremaître, il y a des conducteurs de ligne. Et qu'on ne dit plus ouvrier, on dit opérateur de production. Même mieux maintenant, on dit en anglais, on dit production operator. Et je me rends compte que moi, quand j'écris, j'essaye d'écrire comme je pense sur ma ligne de travail. Et donc ça va très très vite, parce que les gestes sont rapides, séquencés. Et je me rends compte assez rapidement que tous les matins, je retourne à la ligne de production et que tous les soirs, je retourne à la ligne d'écriture. Et donc, le fond est la forme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux. Et d'une manière, j'essaye de faire une approche de la cadence qui est inexorable, qui est tout le temps la même, automatique. À l'abattoir, c'est une vache par minute. Et le vers libre me permet de faire en sorte que le rythme lutte contre cette cadence. Si j'avais écrit, comme on dit dans de bonnes études de lettres, sous la forme d'une harmonie imitative, la cadence étant toujours la même, j'aurais choisi d'écrire sous une forme de vers régulier. Et pour le coup, le fait de casser le rythme, ça me permet de lutter contre cette cadence.
Oui, et... C'est vrai, ça donne ce sentiment à la lecture. C'est la cadence de l'usine que, d'une certaine manière, vous réussissez à reproduire, Joseph Pontus. Mais il y a, dans votre livre, une grande colère aussi. Non seulement contre les conditions qui vous sont faites, et à travers vous, au travail précaire, au travail intérimaire, qu'on connaît mal, mais aussi colère contre notre monde, notre société, contre un capitalisme que vous jugez débridé. Alors, est-ce que je me trompe dans cette interprétation?
À moitié.
Ah bon, ben alors...
Il y a évidemment de la colère contre l'absurdité du monde. À quoi bon cuire... 40 tonnes de crevettes par jour ou 15 tonnes de bulots par jour. Où ça va, tout ça? À quoi bon produire des... Je sais que vous êtes un grand amoureux des vaches, Alain Finkielkraut, que vous en avez une sur votre épée d'académicien.
Vous savez tout.
Et à quoi bon, il y a des éleveurs qui élèvent des vaches qui vont finir en croquettes. C'est-à-dire qu'ils élèvent même pas des vaches à viande, ils élèvent même pas des vaches à lait. Il y a des éleveurs qui élèvent des vaches qui vont juste finir en croquettes animalières. Moi aussi, j'ai une grande tendresse pour les vaches. Vraiment. Je trouve que c'est un animal d'une noblesse incroyable.
Et d'une modestie en même temps, je trouve.
Ouais, ouais, ouais.
Elle la ramène pas, les vaches.
Non, surtout quand elles sont mortes à l'abattoir, elle la ramène encore moins, les
non,
vaches.
Non, non, ça c'est vrai. C'est, non, ça vous dites. Et en même temps, Joseph Pontus, c'est extraordinaire parce qu'il y a ces descriptions insoutenables. J'en ai lu un extrait. Et puis d'autre part, après l'usine, il vous arrive de faire de bons repas, c'est-à-dire de viande. Ah, c'est-à-dire, oui. Vous restez carnivore.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire que je l'ai réinterprété comme ça. C'est-à-dire que les carcasses que j'ai poussées pendant des heures et des heures et des heures me volaient tellement d'énergie que moi, je viens d'une petite famille populaire de Champagne et on mangeait pas de la viande tous les jours. Et c'était au mieux le dimanche. Alors la viande rouge, c'était exceptionnel. Et ma grand-mère me disait toujours, mange de la viande, ça va te donner des forces. Et moi, le fait de ce travail physique, il fallait déjà que je mange de manière un peu costaud, quoi. Et c'est pas un ballotin d'haricots verts qui allait me sauver d'affaires. Et c'était comme si je me réappropriais cette force que les vaches me volaient tous les jours.
Ouais, d'accord. Mais d'un autre côté, quand je parle de colère, vous parlez des manifs émeutières auxquelles vous aimeriez participer. Vous parlez des ZAD et pas seulement des ZAD. Et là, je me suis dit, mais quand même, nous ne vivons pas sous le règne du capitalisme sauvage. 34% du revenu disponible en France est constitué par les prestations sociales, à quoi il faut ajouter les aides sociales. La France est l'un des pays les plus redistributifs du monde, donc les moins inégalitaires. Ça, c'est pas le capitalisme débridé, c'est le capitalisme contenu. Donc, je me dis, il y a la lutte, enfin la question sociale est très importante, mais la radicalité, il y a dans la radicalité une part de mauvaise foi et d'ingratitude. Et donc, or, il n'y a pas de radicalité forcément dans ce que vous écrivez, mais là, tout d'un coup, vous dites, les manifs émeutières, ça a du bon. Joseph Pontus.
Je dis pas que ça a du bon, je dis que la question, j'envisage beaucoup plus ça sous la question de la subordination, c'est-à-dire de la vente de ma force de travail. J'ai eu quelques idéaux politiques, mais là, j'ai éprouvé de manière très aiguë, ce qui m'a permis de le relire encore une fois, l'apologie de la servitude volontaire. Donc, je suis très inconditionnel de la Boétie. Et je me rends compte que oui, le fait que je doive vendre ma force de travail ne me permet pas de participer en tant qu'intérimaire à des événements auxquels j'aurais voulu participer. Que ce soit des manifestations, mais aussi tout simplement aller à des spectacles, aller voir des événements sportifs, ou faire autre chose que dormir. Parce qu'on est tellement fatigué après 8 heures de travail à la ligne qu'on pense qu'il y a une chose, c'est dormir. Et paradoxalement, le fait d'être intérimaire met dans une position où on peut être viré du jour au lendemain sans aucune raison. Donc moi qui ai besoin d'aller chercher ces sous-là, j'y vais de tout mon corps et de toute mon âme aussi. Donc la question politique, elle est simple. Si je vais à la manif, j'ai plus de boulot. Bassement, prosaïquement, j'ai choisi mon camp.
Oui, c'est vrai, si vous allez à la manif, vous avez plus de boulot, mais si ce travail multiforme, c'est grâce à ce travail que le corps social se trouve nourri, vêtu et logé. Donc, bien sûr, vous avez raison, mais on ne peut pas en rester contre la déconstruction à la destruction pure des manifs émeutières. Mais là, je voudrais vous poser une question à tous les deux. Vous avez fait cette expérience, mais vous l'avez abandonnée. Vous l'avez abandonnée. Alors, où en êtes-vous maintenant, Joseph Pontus ?
Moi, c'est pas que je l'ai abandonné, c'est que je me suis fait... Mon contrat d'intérimaire n'a pas été reconduit suite à l'envoi d'un exemplaire du service de presse à la direction de mon abattoir. Donc, du jour au lendemain, on m'a dit que mon contrat s'arrêtait là. Donc, je l'avais envoyé par souci de correction, présumant que ma direction allait être au courant forcément un jour ou l'autre. Et puis, le miracle qui arrive une fois dans une vie, enfin, j'espère que ça va m'arriver plusieurs fois, mais déjà une fois dans une vie, c'est que ce livre rencontre des libraires, des lecteurs, de la presse, vous, et que Bah là, je suis financièrement tranquille pour 2-3 ans pour pouvoir écrire le prochain. Donc, je suis passé en 6 mois du statut d'intérimaire à celui de chômeur. Et aujourd'hui, au statut d'écrivain.
C'est juste... L'écrivain à succès. Et en effet.
C'est incroyable. Vous vous rendez pas compte de la chance que j'ai. C'est comme si,
je m'en rends compte et je suis content d'y participer. Alors je vous pose pour finir aussi la même question, Arthur Lockman. Vous avez été charpentier. Ce n'est pas une parenthèse, c'est un cycle. Vous faites autre chose. Pourquoi avez-vous quitté ce métier et que faites-vous aujourd'hui?
Une des choses dont je parle le plus longuement dans mon livre, c'est le fait que l'expérience de la charpente a pour moi été une expérience quasiment charnelle du bien commun. Il y a une sorte de sentiment de responsabilité sur les chantiers, de responsabilité envers la collectivité à transmettre, faire vivre et faire avancer les savoir-faire en matière de charpente. Et donc il y a cette expérience très concrète de ce que c'est que contribuer au bien commun. J'en ai fait l'expérience et puis je suis revenu, enfant de la vie liquide, à mes premières amours, la philosophie et le droit. J'ai repris des études de droit et je trouve que c'est un terrain exceptionnel pour défendre les biens communs sous diverses formes, et notamment la question d'appropriation du vivant et d'appropriation des savoirs, dont les savoir-faire de la charpente sont de très bons exemples.
Donc... L'expérience que vous avez acquise dans la charpente vous sert aujourd'hui dans votre nouvelle activité?
Elle ne me sert pas directement, mais je la transpose. Je transpose cette énergie acquise sur les chantiers sur un autre terrain.
D'accord, très bien. Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Alors je rappelle le titre de vos deux beaux livres. Joseph Pontus, À la ligne, Feuillet d'usine, publié à la Table Ronde. Arthur Lockman, La vie solide, La charpente comme éthique du fer, publié chez Payot. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Qu'est-ce que l'islamophobie ?». Mes invités seront Philippe Diribarne et Farhad Khosrow-Kavar. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique, aujourd'hui, Olivier Dupré. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.